Donc moi je suis dans le noir, je suis là.
Ouais.
Et alors dans le noir, ça fait quelque chose de différent dans le noir alors ?
Apparemment oui.
Ouais. C'est drôle hein.
Vous mettez le masque pour bien confirmer qu'on ne voyait rien.
Ah non, je vois rien. Rien. Rien du tout. J'ai l'impression d'être dans un avion. Allez.
Bon bah moi je suis de l'autre côté de la ville, donc bonne émission.
Allez, à vous aussi. Pas que je m'endorme, quoi. C'est ça le truc.
Dans le noir.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux. Dans le noir.
Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
Faire rire ne veut pas toujours dire rire. C'est ce que nous raconte dans son livre autobiographique notre invitée du jour. Elle nous y dévoile sa vie, personnelle, familiale, intime. Un parcours où le rire, tel une arme pour combattre les larmes de l'âme, éclaire fragilement, tant bien que mal, nombre de pages bien sombres de sa vie. Pourtant, depuis plus de 30 ans, c'est drôlement drôle que vous la connaissez, que vous la suivez et que vous l'aimez. Michel Bouquet, qui fut son professeur au conservatoire, avait pourtant décelé en elle une toute autre femme. « Tu es dans une grande souffrance », lui confie-t-il alors qu'elle vient de lui annoncer sa volonté d'abandonner ses cours. « Je vois ça depuis le premier jour. Je n'en ai pas l'air, mais je vois pas mal de choses, tu sais. Et cette souffrance vient sans cesse entraver ton élan, le contrarier. Il arrivera un jour où cette même souffrance nourrira ton inspiration, où tu auras appris à en faire une œuvre. Et ce jour-là, tu seras une grande artiste. » Dans notre métier, certains vont vers le personnage, d'autres amènent le personnage à eux, tel Chaplin. Toi, avec ta nature, tu amèneras le personnage à toi. Il y a beaucoup de confidences et de confessions dans ce livre. À l'image de celle-ci, j'ai tellement besoin dans la vie qu'on me choisisse, qu'on m'élise, qu'on m'aime. Qu'elle s'en réjouisse, nous ne l'avons pas invitée à la dernière minute en remplacement de quelqu'un d'autre, c'est bien elle que nous souhaitions rencontrer aujourd'hui, cette comédienne, auteure, humoriste, parolière que nous venons de plonger dans l'obscurité totale pour un entretien qui n'a d'autre ambition que d'éclairer à la lueur de sa voix son histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Muriel Robin.
Dans le noir.
Bonjour Muriel Robin.
Bonjour.
Comment vous sentez-vous dans le noir, installé?
Pas mal.
C'est pas mal pour le moment?
C'est différent, en tout cas. C'est une première, une dernière, je pense aussi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal qu'on parle parce que je pourrais vite m'assoupir. Mais en l'occurrence, on va échanger. Donc, c'est pas mal.
Vous faites quoi habituellement de vos nuits lorsqu'il fait naturellement noir?
En minuit, je dors, moi. C'est un peu...
Vous dormez dans le noir, d'ailleurs?
Dans le noir, oui, mais enfin, j'ai décidé globalement quand même de faire avec ce qui se présente. Donc, voilà, c'est dépendance. Moi, on en a, et c'est vrai que plus on est libre. Donc, si quelqu'un veut laisser la porte ouverte, on la laissera ouverte. S'il faut entendre un tic-tac de réveil, je fais avec tout. Je pense qu'une fois que je dors, on peut tirer le canon et j'entends rien. Donc, j'ai la chance d'avoir cette nature. Donc j'ai des bonnes nuits réparatrices dans n'importe quelle condition.
On va vous faire écouter ce qu'on appelle l'image du son. C'est un son et vous allez nous dire ce que vous voyez. Alors ce n'est pas un canon que l'on va tirer. C'est quelque chose d'un peu différent et qui devrait vous rappeler quelques souvenirs.
Trop bien.
Quelles images voyez-vous en écoutant ça, Romain?
Je vois la maîtresse, oui maîtresse, parce que de l'école dans laquelle j'étais et dans laquelle j'ai découvert cette musique-là. J'étais en CE2 CM2, je crois.
CM1, dites-vous dans le
CM1,
livre.
CM1, voilà, c'est ça, mais c'est possible.
Il y a 10 ans.
Je savais que j'ai, voilà. Et c'était Madame Traîneau, et je ne pourrais pas la remercier, mais elle a éveillé en moi quelque chose. Je n'étais plus seule, puisque je découvrais la musique, comme certains découvrent les livres. Et parce que la musique m'a vraiment accompagnée, a été une amie. Et cette musique-là, qui d'ailleurs, là, en l'entendant, on a l'impression d'être dans un dessin animé. C'est complètement... c'est très joyeux. En plus, voilà, donc ça m'a ouvert un monde.
Donc c'est Pierre et le Loup.
C'est Pierre et le Loup.
Au cas où, de Prokofiev. Et c'est un petit peu plus, je trouve, que ce que vous nous dites là. Vous écrivez dans votre livre Fragile, « Il se passe en moi une chose inouïe. Les notes me pénètrent. Elles m'entrent dans le corps. Elles résonnent profondément sur les parois fragiles et tendues de mon cœur. Je sens les larmes monter, mes yeux se noyer. » Un peu plus loin, vous dites, « En rentrant à la maison ce soir-là, je ne suis plus la même enfant que le matin en la quittant. »
Oui. J'ai bien fait d'écrire ça parce que c'est vrai.
Vous c'est confirmez, vrai, vous signez. C'est une révélation.
Oui, la musique. Oui, c'est une révélation. Oui, vraiment. Mais oui, vraiment. C'est ce que sera. La musique va être donc beaucoup dans ma vie. Me fera souvent pleurer ou me donnera le sourire ou en tout cas vient me taper au fond de l'âme et ça. Alors bon, c'est quelque chose de incroyable, quoi. Je me sens évidemment vivante. Je suis un peu à 10 ans, comment dirais-je, c'est nouveau, c'est incroyable et ça va pouvoir durer.
Et vous êtes très douée pour la musique, vous allez vous en rendre compte.
Oui, mais oui.
Vous avez l'oreille absolue d'ailleurs.
C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'a dit, oui.
Et vous dites à un moment, je sais que l'immense ratage de ma vie carrément, c'est la musique.
Oui, parce que je crois que quand on s'assoit à un piano... On peut jouer, on écoute Polnareff et puis on peut jouer main droite, main gauche comme ça sans jamais avoir appris la musique.
Il y a un truc
et surtout si on fait pareil facilité. Avec une batterie et pareil avec un accordéon.
C'est un indice.
C'est un petit truc où on se dit tiens, bon.
Il y a peut-être un petit quelque chose à développer.
On pourrait peut-être en faire quelque chose, quoi. Elle a l'air un peu faite pour ça.
Et d'ailleurs, votre rêve, c'était carrément d'être chef d'orchestre.
Oui, enfin, j'ai dit chef d'orchestre, ouais. D'être avec la musique, quoi. Parce que de toute façon, quand on est avec la musique, je pense qu'on est avec les anges en permanence. Donc, chef d'orchestre, pianiste, j'en sais rien. Avec la musique, quoi. Avec les notes.
Et en même temps, on se dit que dans votre métier, le sens du rythme, c'est essentiel pour la comédie. D'ailleurs, vous le dites.
Essentiel.
Très bien. À un moment, vous écrivez, si le rire ne tombe pas toutes les deux phrases, je sais ce que je vais penser, il s'ennuie. C'est une catastrophe. Je règle mon spectacle au centième de ce seconde, tout est prévu, 100 fois répété. Jusqu'à l'instant où je disparaîtrai pour boire pendant les applaudissements entre les sketchs, une personne se tiendra de chaque côté en coulisses avec une bouteille d'eau à moitié pleine, la bouteille, pour que je ne m'en fiche pas partout. Et avant même qu'ils aient fini d'applaudir, non seulement j'aurais bu, mais j'aurais déjà en bouche la phrase d'introduction du sketch suivant. C'est incroyablement calculé.
Oui, ça me paraît la moindre des choses. Ça me paraît surtout impossible autrement.
C'est comme ça que ça marche.
Pour moi,
que c'est efficace. C'est
après, chacun a son rythme, mais moi, c'est vrai qu'il est impossible qu'il y ait un silence, par exemple, dans une salle. Donc, à un moment, il faut ou que je parle, ou que le public applaudisse, ou que voilà, parce que sinon, c'est un temps de rien, et c'est impossible, parce que dans ce temps-là, ils vont revenir dans la réalité, se dire tiens, demain, il faut que je pense à appeler machin, ou je sais pas quoi. Et moi, je veux que le temps s'arrête. Et si on veut qu'il s'arrête, il faut que chaque seconde soit pensée et qu'il n'y ait absolument pas de petit espace pour revenir à la réalité. Donc, et puis le rythme, il est aussi dans la façon également de proposer le texte. On a chacun son rythme. Moi, j'en ai un. C'est le mien. Certains je l'entends parfois sur d'autres qui ont été
qui vous mime un peu, enfin, qui
non, s'inspire. Je veux pas parler. Non, je veux pas précisément parler de Florence Foresti,
puisque je ne la cite pas.
Oui, mais parce qu'elle a le même rythme.
Et
que
mélodie vocale même. Ce n'est pas que le rythme.
Oui, 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 oui. Et dans la façon de dire les mots, de taper les syllabes, respirer là et pas là. Moi, je sais dans mon spectacle à quel moment je respire. C'est pensé. C'est y a rien qui est laissé au hasard. Ça marche comme ça, c'est même des notes de musique d'ailleurs, il y a un débit, il y a une façon de taper les mots, les toniques, c'est la musique des mots, hein, finalement, évidemment. Et il y a des musiques de mots qui sont insupportables à écouter parce que c'est trop lent, parce que il y a trop de pauses, il y a trop de blanches, tout d'un coup il y a des temps, on s'ennuie, bon voilà. De toute façon, tout est rythme, la vie est rythme, donc le rythme est vraiment, pour moi, là, vraiment très très important dans mes spectacles.
Oui, bouge pas. Je, allez-y, messieurs. Allez-y. Entrez, installez-vous. Hein, je suis à vous dans deux secondes. Oui. Bah, j'ai les ouvriers, là, qui viennent juste d'arriver. Hein, bah, je suis sur le chantier, là. Voilà. Comment? Je sais pas. On va se rappeler tout à l'heure. Mais, ouais. Bouge pas. J'arrive, messieurs. J'arrive tout de suite. Voilà. Hein? Oui. Goulot. Oui.
Dans votre livre paru chez XO Éditions Fragile, vous parlez bien sûr du rire. Vous en parlez beaucoup, vous l'expliquez, votre rire, en ces termes. J'ai toujours su les faire rire, laissez vos parents, on dirait que je suis né pour ça. Pendant qu'on rigole, on ne s'engueule pas. C'est un truc que j'ai compris au biberon, je crois. Quelques pages plus tard, j'ai l'intuition, enfant, que si je ne les fais pas rire, nous n'allons pas tenir le coup, que notre vie me semble trop dure, trop triste aussi par moments, et que si je suis venu au monde avec ces yeux ronds et cette bouille qui fait sourire aussitôt que j'apparais, c'est sûrement pour transformer le réel, le dédramatiser, mettre de la couleur sur le gris de notre vie, pour que soudain nous soyons surpris de nous entendre rire alors qu'un instant plus tôt, nous étions prisonniers de nos peurs. Vous allez jusqu'à dire, je me dis souvent que si je n'avais pas si bien appris à faire rire les autres, je serais probablement morte de solitude et de chagrin. Rien que ça. Donc c'est une vraie stratégie de survie au départ, ce rire.
Oui, c'est pas mal écrit, je trouve que c'est joli. Enfin, en tout cas, ça roulait dans mon oreille, je trouvais que c'était pas mal. Bon, oui, enfin une stratégie, et en même temps non, parce qu'une stratégie c'est quelque chose qui...
Qui réfléchit là, c'était...
Qui réfléchit là. Moi j'arrive avec ça. Cadeau du cadeau. Cadeau du... Voilà, j'ai ça dans ma... Dans mon panier. Et alors est-ce que j'ai ça... À quel moment ça se situe? Est-ce que j'ai ça en place? Parce que je sais déjà qu'il faut que j'ai ça. Parce que j'ai déjà compris avant de sortir la tête que s'il n'y a pas ça, on va s'entretuer.
C'est bien possible.
C'est possible, parce que voilà, tout ça, ces réponses-là, on ne les a pas, même si on sait que quand même, l'enfant, quand il est là avant d'être là. Mmh. Donc, en tout cas, ça s'est mis en place chez moi, et tant mieux, parce que oui, bah, je ne vais pas répéter beaucoup moins bien l'extrait que vous venez de... Oui, ça empêchait... Ça
sauvait.
Le rire peut sauver des vies, oui. Ouais.
Muriel Robin est dans le noir aujourd'hui sur la première. Oui, vous confirmez. C'est moi, je suis là.
On va écouter. Vous, pas du tout. Vous n'êtes pas dans le noir, vous, par exemple.
Ah, moi, non.
Non, ça n'y aurait pas beaucoup d'intérêt en même temps.
Moins. Ce serait un peu compliqué.
Par contre, les gens qui écoutent aussi, vous mettez-vous dans le noir si vous voulez bien.
Vous savez, ils sont dans le noir, les auditeurs. Ils ne nous voient pas. Ouais. Quelque part, ils sont comme
c'est
vous.
Vrai, c'est vrai.
Voici une chanson que vous écoutiez avec vos sœurs quand vous étiez enfant, Muriel Robin.
C'est laquelle?
Brigitte Bardot, là.
Ah oui!
Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Bonjour, c'est Muriel Robin, je suis dans le noir.
Dans le noir. À la lueur d'une voix.
Muriel Robin, on va, au cours de cette émission, tester certains de vos sens. Et on va tout de suite tester, si vous le voulez bien, votre sens du toucher. Je viens de poser un objet devant vous sur la table. Vous êtes en train de le chercher, ça y est, vous l'avez. Il est un peu plus bas, un peu plus vers vous, voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça dit, nous? C'est dur, c'est...
Ah, ça, c'est une clé. Voilà. Une clé, j'ai pas tout à fait le nom des outils, mais celle-ci, je les ai à la maison. Dans toutes les tailles, c'est une clé à... c'est pas, évidemment pas une clé à pipe, c'est une clé... Enfin, une clé... C'est du combien, ça, d'ailleurs? C'est du...
Ça, c'est... Ah, il y a deux côtés.
Ouais.
C'est pas la célèbre clé de 12, c'est un tout petit peu plus grand.
C'est ça, ce que j'allais dire. C'est plus grand que du 12, c'est du... Encore que c'est sûr que c'est pas du 12 de ce côté.
Non.
14?
Oui, bah,
ah ouais. Mais j'allais dire, très franchement, j'allais dire 12. J'allais dire 12, et du coup, j'aurais dit 14 de l'autre côté, mais c'est 14 et 16.
14 et 15?
Et 14 et 15? Ah oui. Ah oui, un sacré écart. Ouais, d'accord. Je pensais que c'était que. Ah non, parce que je n'aime pas les chiffres impairs, donc.
Ah, désolé. Donc pour moi, on le saura pour la prochaine fois.
Mais oui, ça, c'est.
Ça vous fait plaisir, j'imagine.
Ah, j'adore. Merci. Je suis très contente. En tant que femme, je dirais de 63 ans, dès que j'ai
une clé dans les mains.
Une clé, une petite clé à molette.
Je vous sens là, dès l'émission, c'était un peu mou, c'était un peu tristonné.
Si vous me donnez un truc, ça y est. Je vous les montre ce que vous voulez. Non, mais ça, c'est. Alors, ça, c'est de la. Ça, c'est une madeleine pour moi, mais vraiment, alors, mais la madeleine, hein, ouf. Je vois mon père, je vois tout, je vois des doigts d'homme, des ongles un peu sales qui travaillent, et puis je vois mes petites mains aussi, et moi qui essaye de faire pareil à côté, je vois, oui, mon père qui m'a dû me montrer, je sais pas, 400 fois, 1000 fois, comme on mettait un clou dans un mur pour faire proprement, parce qu'évidemment très perfectionniste, donc qui m'a appris tous ces outils-là, et moi je les ai tous, et ça m'a permis, quand je suis arrivée à Paris, de réparer moi-même le petit appartement tout petit que j'avais trouvé, donc c'était pas mal d'être autonome, et encore aujourd'hui, je sais plus ce que j'ai fait l'autre jour, je me suis dit, mais quelle chance. Si j'étais une femme normale, j'allais dire, j'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de me dire, mais qui va me faire ça? On va m'arnaquer, on va me prendre peut-être je sais pas combien d'argent pour ça, etc. Alors que, bon ben voilà, moi j'ai un garçon à l'intérieur de moi. Ou alors on en a fait, ou alors on a eu envie qu'il y en ait un, donc du coup j'ai laissé, mais... Et en même temps je dis ça, et pourquoi les filles n'auraient pas des boîtes à outils? J'ai un ami, moi, un homme qui tricote. Donc finalement, c'est moi le genre. Je trouve que c'est un peu restrictif, quoi. Voilà. Donc je couds pas mal, mais je bricole pas mal aussi. Ouais, je suis plutôt pas mal. Ouais.
J'ai une boîte à outils suffisamment complète pour mettre en pièce une centrale électrique, pardon, et la remonter ailleurs. Vous écrivez. Vous faites rire, Marie-Laure.
Non, mais parce
c'est
que.
Un plaisir
non,
ça...
non, mais c'est la fin. C'est parce que, non, mais je me dis que. On choisit c'est pas, ça, c'est comme ça.
Vous parlez dans votre livre avec beaucoup de sincérité de votre ambivalence sentimentale. Vous écrivez d'ailleurs premier baiser à 11 ans avec un garçon. L'expérience relève plus des sciences naturelles que des sentiments.
Oui, je fais ça parce que, oui, bah, voilà, ça dit tout. Ça
exactement.
Dit tout, ça dit tout.
Et vous expliquez votre masculinité ainsi. Hmm? Vous dites, je me suis efforcé de consoler mon père en essayant de lui rendre le garçon qu'il avait perdu. Il avait perdu. Vos parents ont perdu un bébé 10 ans avant votre arrivée. C'était un garçon. Hmm. Et sur le côté, pour votre mère aussi, vous développez votre masculinité. Vous dites, si j'éprouve si fort la nécessité d'être un garçon, un petit homme, c'est aussi que je ressens le besoin de protéger ma maman, qui me semble chaque jour au bord de la rupture et peut-être même de la folie. C'est drôle parce que comme l'humour, le développement de cette masculinité vient finalement de la volonté de sauver vos parents, consoler le papa, protéger votre mère.
Bon, moi, en fait, le moteur quand même, c'est faire plaisir, quoi. J'aime bien l'idée d'être utile. Utile, en fait.
On se dit que si vous aviez été dans une famille plus aimante, vous auriez été peut-être pas drôle du tout et monosexuel.
quel dommage.
Voilà, les deux.
Et puis maintenant, c'est vrai que maintenant, j'aime tout ça. Parce que ça fait moi, ça m'appartient. Il a bien fallu qu'à un moment, j'aime tout ça. Mais oui, bien sûr que j'aurais été différente, c'est sûr. Non, c'est voilà, moi en tout cas c'est comme ça, et je trouve que c'est du plus, parce que oui, je suis enfin, quand je dis, oui, en tout cas, mon Oui, mon masculin est là. Et alors, parfois, il était trop là. Ça ne me plaisait pas beaucoup, mais je n'avais pas la main dessus. Et puis maintenant, j'ai vraiment la main dessus. C'est-à-dire, je suis vraiment une femme. Voilà, je n'ai pas de soucis. Mais d'avoir un garçon qui est planqué là, dans un coin, je trouve ça sympa, quoi. C'est qu'à un moment... Et encore une fois, c'est de la liberté, c'est de l'autonomie. C'est... Voilà, quoi. Je trouve ça génial. C'est du plus.
De la complémentarité.
Oui.
Est-ce que ça vous dirait que l'on feuillette votre livre, Muriel Robin? On va le faire en son.
Saluons à la dernière feuille du calendrier la fuite définitive de l'année 1955. Alléluia, alléluia. Et l'on peut compter cette année quelques hautes figures disparues. Le poète Paul Claudel en France. En Amérique, le génie du siècle, le physicien Einstein. On peut compter 1955 au crédit féminin. On a vu les femmes prendre pied, si l'on ose dire, dans des domaines jusqu'ici exclusivement masculins. La pédale, par exemple.
On les entend frapper dans leurs mains. Avec eux, nous chantons. Saint-Étienne sera champion.
Installez-vous confortablement. Le client est roi. Vous connaissez le prix des chaussures?
Plus ou moins, là, j'ai vu en vitrine. Là.
C'est 200 euros, hein?
Oui.
Vous avez assez sur vous?
Non.
Non, parce que...
Je fais la vaisselle.
Non, franchement, parce que c'est cher, hein?
Ça fait rien. Laissez-moi essayer.
Si je te cache quelque chose, c'est pas du tout ce que tu crois. Je t'aime.
Qu'est-ce que tu me caches, alors?
Je les retrouverai tous. Je leur ferai payer cher. À eux et à leur famille.
Pas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie.
Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Quand tu passes en tricotant les hanches, d'un clin d'œil le quartier est dragué. C'est bien toi la reine de la place blanche. Fais-le danser, Julie Larousse, toi dont les baisers.
Chapeau blanc.
Voilà, non, mais ça devrait être annulé, celui-là.
Ah,
mais
non,
ça arrive
non,
que des joueurs marquent des buts contre son
équipe. Jacques Martin se recueille.
Elle aura pas c'est pas le temps.
Jacques Martin, Jacques Martin, tout seul au podium.
Alors, tout seul.
Alors, ça va être gratiné.
Attention.
C'est pas nous. Je ne regarde pas.
C'est ça le mode.
Film.
Yes, c'est un film.
Depuis quand draguez-vous les jeunes gens et comment s'est passée cette rencontre?
Mais moi, j'avais pas du tout l'intention de draguer un jeune homme, et ce jeune homme m'est tombé dans les bras avec beaucoup de chaleur, et vous savez ce que c'est.
Ah bon?
Je n'ai jamais eu d'enfant, et ça me prend un peu sous mon aile.
Alors donc, vous êtes seul en scène pendant cette
oui,
combien
là,
de temps?
Sérieusement, oui,
alors sérieusement, racontez-nous.
Alors, je pense qu'on va faire 4h20,
oui.
Sans entracte, mais on vend des coussins. Oui, des sandwichs.
Ah, dis donc, tu vas pas me faire essayer ton bolide? Maintenant? Bah oui, pourquoi pas.
Il dit que ça peut être un meurtre.
On l'aurait poussé dans la piscine. Ce serait exactement la même chose.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le problème de l'homosexualité n'avait jamais été abordé à la télévision avant 1975. Ce sont en effet les dossiers de l'écran qui en ont parlé les premiers à la télévision en janvier 1975. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette émission qui avait eu à l'époque un grand retentissement. Elle avait été précédée d'un film. Et les invités, particulièrement les invités.
Elle est à fleur de peau. Le jour où j'ai perdu ma maman, elle est à mes côtés.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin.
On a de bonnes raisons de croire que Marcheron est venu ici le soir où il a été tué.
Je crois que dans votre intérêt, vous devriez faire un effort.
Et moi, monsieur le juge, je crois que dans votre intérêt, vous feriez mieux de me foutre la paix. Vous pourriez vous faire taper sur les doigts.
Oui, je sais qu'à la préfecture, on a un petit fait pour vos pensionnaires, mais réfléchissez bien quand même.
C'est quoi cette musique?
Et comment on fait une fausse musique de western?
Ah, ça c'est une question d'orchestration.
Je pense que c'est comme une fille que j'aurais aimé avoir. Elle est d'une extrême sensibilité.
C'est vous feuilletez bien. Vous feuilletez très joliment et mais qu'est-ce que je suis chopé moi dès qu'il y a des comme ça une musique, quelques répliques, une fois qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mais ça y est, quoi, on est au cinéma. On me dirait ce que c'est que cette dernière musique que je connais par cœur, évidemment.
C'est le film Un homme qui me plaît.
Ah bah, bien sûr.
Avec Anne Girardot. Je suis bête.
Papa, 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 di-da-da, 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 un homme qui me plaît. Donc, ouais, ça sert la gorge, quoi, tout de suite.
Ça mérite quelques explications pour les auditeurs, peut-être.
Je comprends, parce que
vous étiez dans votre vie.
Excusez-nous,
dans votre livre.
Je suis en noir, je suis dans ma bulle, c'est une radio juste pour moi, si vous voulez. Je me parle à moi-même et reprenez votre vie. Je sais pas que vous n'aimiez pas.
On a évoqué l'année 55, votre année de naissance.
Oui.
Donc vous êtes peut-être la réincarnation de Paul Claudel ou Einstein, comme on l'a entendu.
Oui, peut-être des deux d'ailleurs.
Les deux en même temps.
Oui, top.
Vos parents avaient un magasin sur le soir Saint-Etienne, donc on l'a illustré avec François Damiens, entre autres. Votre maman, dont vous dites dans votre livre qu'elle était un peu comme Isabelle Adjani à 16 ans, dans L'été meurtrier, donc on a écouté un extrait. René-Louis Laforgue, fais-nous danser, Julie Larousse, vous chantiez ça à 6 ans en montant sur les tables dimanche après le déjeuner. On a écouté Rachmaninoff, que vous aimez bien. Au nom de la loi, la série, parce que on vous a offert à 6 ans un cadeau qu'on fait habituellement aux garçons, le fusil du personnage
carabine,
dans le film, la carabine. Les Carpentiers, c'était grands enfants, l'émission de télé. La voix, bien sûr, de Jacqueline Haillant, on en a parlé tout à l'heure. Delon, dont vous étiez amoureuse dans la piscine, que vous avez rencontré plus tard. Vous dites dans votre livre, il y a une anecdote qui est assez géniale. Il monte dans votre voiture, vous le croisez par hasard dans la rue. La veille, vous avez fait tomber un plateau d'huîtres, donc c'était un peu compliqué
cauchemar.
Au niveau odeur.
Un cauchemar.
Les dossiers de l'écran,
oui.
Vous l'avez vu à l'époque, vous
oui.
étiez ado, sujet sur l'homosexualité, et du coup, ça vous a fait drôle et réfléchir d'être confronté à ce sujet-là, en pleine réflexion, j'imagine, sur vous-même. Lynn Renaud, bien sûr, je voudrais qu'elle soit ma deuxième maman, vous écrivez, elle finira un jour par vous appeler ma fille et vous par l'appeler maman d'amour. Le juge Fayard, un extrait, puisqu'il y a eu un tournage quand vous viviez à Saint-Etienne, et c'est là que vous avez été figurante et que vous avez dit comment on devient comédienne. Vous avez dit faut aller au conservatoire rue Blanche.
Voilà.
Du coup, vous pensez que c'était la même chose, conservatoire
oui,
rue Blanche.
Exactement.
Michel Bouquet, donc votre professeur au conservatoire, l'homme que j'admire le plus au monde. D'ailleurs, on apprend que vous l'avez toujours vous voyez, vous qui tutoyez Jacques Chirac. Ça fait rire aussi quand on lit ça dans votre livre. Et puis Annie Girardot, si Annie Girardot existe, alors moi aussi je peux vivre, trouver ma place, vous vous êtes dit.
Oui, merci.
Parce que c'était une comédienne un peu... Vous avez dit, s'il n'y avait que des Grace Kelly, jamais...
Bah, j'étais mal, hein. Ça aurait été compliqué pour moi, pour trouver. Je pense que là, oulala... Ah oui, il aurait fallu que je m'isole. Enfin, j'aurais pas pu. Non, Annie, elle a vraiment, je peux pas dire mieux. Oui, elle m'a. Si elle existe, je peux exister, quoi. Et c'est surtout si elle raconte des histoires sur un écran, peut-être je peux moi aussi.
On ne le sait pas, mais vous êtes aussi parolière, Muriel Robin. Vous l'avez été en tout cas une fois pour Johnny Hallyday. Ah bah si. Ça s'appelle Elle s'en moque. Bah on va écouter.
Oh, d'accord.
Quarante ans ont passé, je n'ai jamais triché, j'ai tout fait, tout défait, je n'ai rien à regretter. On dit que j'ai tout eu, tout connu, tout vécu, j'ai tout pour être heureux, pas le droit d'être malheureux. De mes jeunes années, je n'ai rien oublié, je vous les ai donnés, j'ai pas vu le temps passer. Des amis sont partis, ils ont quitté ma vie. Bien sûr, je les ai pleurés, mais je devais me cacher. J'ai l'air d'un. C'est elle qui m'a sauvé, j'avais bien mérité un bout de ciel étoilé. Elles sont là aujourd'hui et ma fille me sourit. Je veux leur dire merci de me donner l'envie. Un jour elle le saura, les gens diront qu'elle a un père chanteur de rock, mais de ça elle s'en moque. Quand elle est dans mes bras, il n'y a plus qu'elle.
Bonjour, c'est Muriel Robin, je suis dans le noir.
Dans le noir.
Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
Et Muriel Robin, surtout, aujourd'hui dans le noir. Tout se passe bien ?
Oui, très bien. Très bien.
C'est le moment où on va tester votre goût.
Ah.
C'est pour ça que je vous ai demandé avant, ça va bien ? Ouais, bon bah... Alors, je vais vous faire goûter quelque chose tout à fait comestible. Donc, je vais vous tendre une fourchette.
Main droite, main gauche, vous êtes où ?
Comme, ou alors, je me permets, vous ouvrez la bouche.
Ah, voilà. C'est mieux.
Alors, c'est froid, je vous préviens.
Je suis là.
Hop, allez-y.
Ah.
Hop. Mmh. On peut la refermer. Voilà. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce que je viens ?
Oh, bah oui. J'adore.
Ah, tant mieux, parce qu'on ne savait pas. Ah, tant mieux.
Parce que j'aime ça. Alors, je ne sais pas s'ils sont bio, s'ils sont du jardin.
Ils
potager.
Sont bio. Mmh. Ils viennent du restaurateur en face de la rue.
Ils sont pas mal.
Paris, ouais,
alors, je suis en train de manger pour vous qui nous écoutez.
Voilà.
Poireau vinaigrette.
Bravo.
Voilà. Et très bon, parfait. Gardez-les pour après l'émission, je les...
Ah bah il y a une belle assiette.
Génial.
Pour la finir. Et pourquoi donc a-t-on choisi des porcs au vinaigre pour vous, Muriel Robin?
Je sais pas, mais j'en parle dans le livre des porcs au vinaigre.
Non,
je crois pas.
Vous en avez parlé quelques années avant, on va écouter ça.
Ah.
Alors Nicole, poire ou vinaigrette, oui, 28, après, sur le dos, 72, très bien, dessert, pas de dessert, tant mieux, 8 et 2, 10, 7, 9, 10, 100 francs. Ouh, bah dis donc, on a drôlement bien fait de faire le détail. Ah bah dis donc, 10 balles par-ci, 10 balles par-là, ça fait vite 20 balles à la fin du mois, hein, dis donc, yo. Alors, François, je t'écoute, t'as pris une salade avec des trucs dedans et des bitognos. Ah bah dis donc, t'as dû te régaler, mon salaud, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas ça sur la carte, nous. Alors, c'est où la piémontaise, jambon gruyère banane, non? Alors l'auvergnat, pomme de terre lardon, œuf mollet. Non plus. Bon, eh ben alors c'est l'exotique. Maïs, avocat, cacahuète. Sans moi, ça m'écœure, je vais pas tarder à vomir. Hein.
C'est un de vos premiers sketchs, Marie Rodin.
Oui.
Et dans votre livre, vous racontez comment il est né. Tout ça est parti d'une soirée le 1er juillet 1988. Qu'avez-vous fait de votre soirée?
Ben, je suis allée voir sur scène un garçon qui s'appelle Pierre Palmade.
Que vous ne connaissiez pas du tout.
Pas du tout. Je suis allée le voir, donc il partageait la scène avec Chantal Latsou. Ils avaient une demi-heure chacun. J'ai un coup de foudre énorme. Je trouve ce garçon incroyable. Je sors et on se parle devant le théâtre. Et il me dit, vous êtes une de mes trois comédiennes préférées. Les deux autres étant Jacqueline Maillan et Sylvie Joly. Parce qu'il m'avait vu au théâtre de Bouvard. Et puis on va dîner. Et puis on parle, et puis on lance déjà, et pourquoi vous faites pas du one-man show, moi? Pas du tout dans ma tête, j'ai pas du tout ça. Et puis, il est jeune, il a 19 ans. Et il lance déjà des idées, un peu des trucs. Il me dira, parce que je m'en souviens pas bien de ça, parce qu'on en a parlé il y a quelques temps, que je réponds, enfin, ça fait une réplique lui, une réplique moi, un peu, voilà. Et si on se voyait, bref, le lendemain, on dîne ensemble. Et si on écrivait un spectacle, là, bon, oui, pouf, paf. Je crois qu'on s'est mis au travail. Le surlendemain, il m'a offert un ordinateur, un Amstrad. Donc, j'ai découvert, l'ordinateur et Pierre. Et en fait, on n'apprend même pas à se connaître. On se met à l'écriture. Il a déjà tellement de choses. Il a écrit déjà. Et puis, il a une ébauche sur le sketch qui s'appelle Le Mariage, que les gens appellent Le Noir. Et je ne sais pas si on a commencé par celui-là ou par un autre, peu importe. Et on écrit et on tombe de notre chaise. Et on, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. On est comme en apnée, comme en transe. Et pouf, 2 heures après, on a un sketch, et on recommence, et parfois il reste dormir, parce que ça déborde, quoi. Il faut noter tout ça. Alors moi je tape, lui il fait des pas derrière moi, il a beaucoup d'énergie, beaucoup de nervosité, donc on est comme ça, on avance. C'est incroyable ce qu'on vit. Et 3 semaines, enfin le 1er juillet j'ai dû aller le voir sur scène, et 20 jours après je suis sur scène, puisqu'il avait réservé la scène du Tintamarre. Il me dit je serai pas prêt, donc le temps d'écrire, de faire des affiches. Mais comme on écrit très vite, j'écris un sketch par après-midi, donc je me retrouve sur scène avec un one man show. J'ai jamais imaginé de ma vie, jamais, ni envie, ni pensé. Enfin, c'était pas du tout. Moi, je viens à Paris pour faire du cinéma, donc et je me retrouve et boum, et ça marche, et c'est plein, et les gens rient, et l'histoire commence comme ça, et on écrira plusieurs. Enfin, c'est un truc, une rencontre unique, incroyable.
Vous avez bien fait d'aller au Tintamarre ce soir-là.
Oui.
Non, mais c'est étonnant.
Oui, parce que une rencontre comme ça, on n'en fait pas. Oui, c'est. Si je rencontre pas Pierre, je sais même pas si je reste dans le métier. Je sais même pas, parce que je suis pas. Enfin, si je veux faire ce métier, mais je peux aussi voir le monde. On le saura jamais. Et puis, mais après le premier spectacle, moi, je suis persuadée que je vais faire autre. Enfin, que je vais faire du cinéma, puisque je suis venue pour ça. Donc. Et puis un deuxième spectacle, et puis, je laisse passer pas mal de temps entre les spectacles. Je non pas que je veuille être rare, mais c'est vrai qu'aussi je pense que ça vient du fait que, enfin, je préfère manquer que saturer. Je trouve que parfois il faut laisser un peu de temps, et on écrira comme ça des sketchs. On a cette chance incroyable, c'est-à-dire que 30 ans après, ils sont pas bougés, quoi. Enfin, ils sont toujours aussi efficaces, parce qu'on a, on ne s'est jamais censuré en se disant ça, on va pas le mettre, parce que naturellement, tant mieux pour nous et tant mieux surtout pour le public. Il n'y a pas de nom propre, il n'y a pas d'époque. On est sur des choses tellement petites. C'est vrai qu'une fille qui met une veste, je crois que ça marchera dans 60 ans, quoi. Enfin, ça s'appellera peut-être pas une veste, mais ça sera pareil. L'addition, c'est pareil, la coiffeuse. Donc, ça fait très, très, très plaisir. Très plaisir. Très, très, très plaisir. Vraiment. Comme ça ne veut pas descendre dans la rue comme une chanson, encore qu'il y a des répliques qui sont... C'est ce qu'on me renvoie, qu'on me dit qu'il y a des répliques qui sont cultes. Bon, tant mieux. Et mais le fait que voilà, que ça, qu'il n'est pas vieilli, contrairement à nous, mais ça, c'est formidable, quoi. Enfin, c'est nos bébés, c'est un truc, puis la manière dont on a fabriqué ça, quoi. C'est vraiment une transe, un truc incroyable, incroyable. C'est honteux, c'est insolent d'écrire un spectacle, 8 sketchs en 8 jours, en 8 après-midi. On dit, faut même pas le dire. Ben si, mais c'est le temps, on peut mettre un mois pour écrire de la daube et on peut, mais voilà, combien de chansons magnifiques se sont écrites sur un coin de nappe, comme ça, pouf, 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 ça s'appelle l'inspiration. Et Pierre et moi, c'est comme une joute, je pense, parce que qui va faire plus rire l'autre, je crois. C'est peut-être la guerre de, c'est comme les gens qui s'engueulent à force de dire je t'aime, non, moi je t'aime plus, fais gaffe, c'est moi qui t'aime plus. Et donc c'est la guerre de séduction aussi. Parce que, on a la même arme, Pierre et moi. Donc, on est, je le, et en même temps, au passage, évidemment, c'était une rencontre. On a mis des mois après tant que ça, mais on a surtout partagé des moments et je le connais très bien. On s'est parlé après, plus tard, mais je le connais, je le ressens, quoi. On est frère de mal-être, peut-être, je sais pas, une chose comme ça dans ce qu'on a géré chacun différemment, mais. Voilà, puis maintenant ça fait 30 ans, donc et notre amitié n'est pas restée sur le tapis, parce que parfois les gens se séparent. Nous, on a fait un petit break de 4 ans, parce qu'on avait besoin, mais on a pu se retrouver. Donc, mais c'est, je l'ai mis dans le livre, vraiment, c'est le fils que moi, un fils comme ça, je dis servi, quoi, je garde, hein, je fais pas l'échange à la maternité en me disant je prendrai celui d'un côté, hein, un fils ou un petit frère que j'aurais aimé avoir, quoi, aussi, donc. Ça c'est... Puis on a fait tellement plaisir aux gens. Ça c'est pas mal, hein. On n'est pas les seuls. Mais... Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire rire. Beaucoup qui... Ce métier, il est tentant, on a envie de tout ce qui va avec. C'est pas parce qu'on monte sur une scène, c'est pas parce qu'on s'est déconné avec les copains et tout ça que sur scène, on est drôle. Il y a une écriture, quoi. Il faut écrire. Pierre, il écrit, il me surprend à chaque fois. C'est toujours lui qui apporte les idées. Pas moi, je suis pas bonne pour ça, pas du tout. Parce que je suis pas sûre de moi, au moment où je la dis l'idée, je suis tellement pas sûre de moi que je la vends mal et du coup l'idée n'est pas bonne. Et si c'était la même idée dite par lui, je dirais, ah ça c'est formidable. Donc, et puis il a vu des choses en moi, il a pointé. Ce qui paraissait normal chez moi, mais ce rire dont vous parlez, qui s'est mis en place très tôt, il l'a pointé, mais il a dit, mais ça, faut. Comme il a dit l'autre jour dans une émission, il a dit, mais je ne veux pas garder ça que pour moi, il faut que les gens en profitent. Est-ce que, sans lui, j'aurais pas pris cette voie-là, d'autant que c'était pas ce que je voulais faire. Moi, comme métier, je voulais faire Anne Girardot. Donc, là, je vais plutôt faire Fernand Reynaud quand même. Donc, mais voilà, c'est une belle histoire, je trouve.
Muriel Robin est aujourd'hui dans le noir, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Fragile, chez XO Éditions. Voici une chanson mélancolique, triste même, qui vous a inspiré un sketch drôle, très drôle, mais pas que. Inutile de le présenter.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
Dans le noir, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Muriel Robin, vous êtes dans le noir. Est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes habillée ce matin?
Oui, j'ai dû mettre un pantalon bleu marine, comme souvent, et un gilet bleu marine et un t-shirt bleu blanc.
Parfait. C'est un sans faute. Et vous êtes venu. Oui.
Quand vous posez cette question, parfois, les gens ne savent, peuvent par exemple, ne savent pas.
Bah, à chaque fois, je me dis, ils ne vont pas se rappeler, puis ils se rappellent toujours. Donc, ça, donc finalement, peut-être aucun intérêt.
C'est ça, c'est ce que je me disais un peu. C'est ce que je me dis. Après, vous voyez, mais.
Je ne sais pas, je me dis, bon, si on est dans
mais
le.
Mais quand tu es là, mec, un jour, peut-être que ça.
Ouais, je ne lâche pas.
Allez.
Jusqu'au jour où ça marchera. On va tester votre odorat.
Ah.
Ah.
Non, je ne suis pas très. Pareil que. Je ne suis pas terrible.
Alors, je place quelque chose sous votre nez, vous allez me dire.
Ça y est, là? Ah oui.
Oui, ça y est.
Ah oui, ça c'est... C'est une cigarette, non?
C'est une cigarette.
Ah, c'est ça.
Désolé, je suis en train de vous souffler dans le nez, mais j'ai oublié de faire ça. Pourquoi une cigarette? Alors, je vais l'écraser. Je ne fume pas du tout, en vrai. Pourquoi je parle de la cigarette? Ouais. C'est l'objet dont vous parlez le plus. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte dans votre livre. Vous en parlez beaucoup. Vous dites d'ailleurs quand même, et ce n'est pas rien, le premier souvenir que j'ai de nos parents me vient de mon père. Il écrase sa gauloise dans un cendrier sans l'éteindre tout à fait. Je l'observe qui reste assis à côté de ce cendrier en espérant qu'il va se lever et s'en aller parce que je veux m'emparer de son ego. Enfin, il se lève, quitte la pièce et aussitôt je prends le bout de cigarette et je le mets dans ma bouche. J'ai 5 ans et je tire ma première bouffée. Quelques pages plus loin, vous écrivez « Je fume, je bois, je
me... » bien la gamine.
Ah,
mais enfin, j'ai pas bu avant l'âge de 9 ans.
Non, là, j'ai dit quelques pages plus tard. Je fume, je bois, je me détruis, tout ce que je suis, je le dénigre. Encore quelques pages plus tard, j'ai arrêté de fumer le jour où je me suis mise à travailler avec Pierre Palmade. Mais je reprendrai 2 ans plus tard. Je songe encore quelques pages plus tard que ce geste de tirer sur une cigarette quand on souffre, c'est un baiser qu'on adresse à la mort parce qu'on n'a personne d'autre à qui le donner. C'est étonnant comme c'est très consciemment que vous associez à l'autodestruction, la prise de la cigarette. Mm-hmm. Est-ce que vous fumez en ce moment, Myriam?
Non.
C'est définitivement arrêté?
Malheureusement, je suis retombée dedans le jour de mon anniversaire parce que trop de stress, de soucis, etc. Donc j'ai retrouvé ça. Et alors là, je me suis dit, mais au secours, et j'ai pu, sans rien, par la volonté, parce que je ne veux pas fumer, parce que je ne veux pas ça, et je veux surtout pas être, en fait, amoindrie, fatiguée, essoufflée.
Le sport, je m'essouffle, rien que d'y penser. Pas besoin de faire un essai. Je cours 100 mètres, je te fous la paix. Je te fous la paix. Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête. À la dernière allumette, je craque.
Dans le noir.
Dans quelques secondes, vous allez pouvoir recouvrer la vue.
Déjà ?
Eh, comme quoi ? Je vous ai entendu avant d'entrer dans le studio. Quoi ? Une heure ? À peu près 45 minutes peut-être sans les disques. Ah, puis c'est
désolée.
Très long.
Je suis tellement désolée parce que vraiment, je sais pas pourquoi d'ailleurs je fais jamais. Tout d'un coup, à vouloir gratter 5 minutes. Non, pour plus, c'est pas moi du tout. Je suis là. Voilà, la conversation s'installe et puis...
Alors juste avant, il reste 7 petites questions.
7 7 C E de T E ou 7 6 C 1?
6 C 1.
Hein? 6 C 1.
Avec des réponses très rapides.
Ah bah bien
ça
sûr.
Ça s'appelle le questionnaire Ombre et Lumière.
Alors bon.
Dans le noir.
Muriel Robin, la dernière fois que vous avez broyé du noir, c'était quand et pourquoi?
C'était tout à l'heure. J'ai eu un moment de serrage de gorge, pas vraiment broyé du noir, mais j'ai senti un malaise parce que j'allais peut-être faire ce week-end quelque chose que je n'avais pas du tout envie de faire et que j'ai annulé.
Comment vivez-vous avec votre part d'ombre?
Bien, parce qu'elle a rétréci.
Que vous apporte la lumière des projecteurs?
Si je suis éclairée, c'est que je suis sur scène, donc je fais plaisir aux gens. Donc ça m'apporte de faire plaisir aux gens.
Selon vous, mourir, est-ce se retrouver dans le noir à tout jamais?
Parce qu'on n'y est pas, déjà, tout le temps dans le noir. Donc, un autre noir. Pour moi, ça sera un autre noir si on est dans le noir.
Noir.
Voilà, peut-être un peu plus noir.
Qu'aimez-vous faire le plus dans l'obscurité?
Respirer.
Et qu'aimez-vous faire le plus en pleine lumière?
Rire.
Vous pouvez retrouver... la lumière, soulevez votre bandeau si vous le souhaitez, Muriel Robin.
Vous êtes là? Ah, vous êtes là depuis le début?
J'aime beaucoup, vous avez soulevé juste un œil.
Vous êtes là depuis le début?
Ah, oui, c'est pratique pour se parler.
Mais je ne comprenais pas, je croyais que vous étiez là.
Non,
mais bien
sûr,
vous êtes là.
C'est qu'on ne se voit pas avant.
Attends, j'enlève ça. Oh, j'étais bien, c'est pas mal, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir en même temps.
Non, je vous remercie, vous dites ça en me regardant. Il y avait la clé de 14.
Voilà. Alors ça.
Je vous présente votre poireau, si je puis me permettre. Non, le poireau. Vinaigrette.
Alors voilà, ça, cette clé, ouais, moi je mettrais, j'ai l'impression que c'est 14 et 15.
Comment ça s'est passé? Comment avez-vous Super. Vécu cette
Super.
Heure dans le noir?
C'est bien, et en même temps, je sais pas, peut-être que ça a fait que j'étais trop longue dans les dans certains
au
parce que du coup je sais pas on est c'est peut-être ça que ça change qu'on n'en a pas oui le regard avec l'autre ou non pas que j'aurais pu sentir une impatience parce que je vous soupçonne d'être bien élevé mais rythmiquement on est un peu dans une avec soi dans une bulle alors on fait peut-être moins attention à l'autre du coup puisqu'on ne le voit pas bon, alors est-ce qu'il faut ne plus faire attention à l'autre sous prétexte qu'on ne voit pas grande question mais bon c'est un peu ce qui s'est passé.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
D'avoir été avec nous.
C'est moi.
Et je rappelle que votre livre s'appelle Fragile aux éditions XO. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Vous venez d'écouter Dans le noir avec aujourd'hui Muriel Robin. L'émission a été réalisée par Alexandre Lemierre et la programmation musicale était de Willy Delezu. Belle journée à vous sur la première. Bon après-midi à l'écoute des programmes de la première. Il est 16h.